Bon après-midi, soldats du roi des rois. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pas ça que je voulais faire, mais en tout cas. OK, je l'ai. Voilà. On va l'avoir. Il m'a pensé que c'est un bon cornet de crème glacée.
Ouvre la bouche.
Donc, bon après-midi à chacun. Très reconnaissant d'être ici. J'essaie de me rappeler la première fois que je suis venu ici, puis ça fait 50 ans. En 76, sauvé en 74, je pense que la première conférence chez M. Tremblay, j'étais là avec M. Bernet. Je me rappellerai tout le temps, je ne sais pas si Mélène s'en rappelle, on se réunissait dans le sous-sol, puis là, j'ai dit, vous vous rappelez, chez le sous-sol, il y avait des colonnes. Puis moi, je m'étais mis en arrière d'une colonne. Puis j'avais dit à Mélène, j'ai dit, je fais ça comme ça, si je tombe endormi, ça ne paraîtra pas. Puis exactement ce qui est arrivé, je suis tombé endormi. Puis elle m'a donné un bon coup de coude. fait que j'ai le privilège, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, d'être ici. Fait que je ne peux pas tomber endormi. Mais vous autres, vous pouvez tomber endormi, Brélande. Mais je vais tout faire pour pas que vous soyez endormi. Réveille-toi, toi qui dors. Christ t'éclairera. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort, par moment, pour vous garder réveillé. On parlait de livres intéressants. Notre frère a mentionné le livre de M. William MacDonald sur le vrai disciple. Je pensais à un autre, aussi qu'on a pensé du thème. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de celui-là, de C.S. Gofir, Voie d'accès à la Bible. Il n'est plus là, parce que ça fait plus de 50 ans. Mais un bon livre, et ceux qui ont la Bible Scofield, ben, il y a des bonnes notes aussi dedans qui parlent de ça. Un sujet, comme on dit, qui est débattu encore aujourd'hui, mais souvent, c'est comme si on cherchait toujours quelque chose de nouveau. Dans le monde dans lequel on vit, si on vous dit, ben ça c'est réellement nouveau, ben là on est intéressé. Mais si on vous dit, ben là, ça fait au moins 6 mois que c'est sorti. Oh, pas intéressé. Et plus que ça va, plus qu'on veut des choses nouvelles. Et ça, dans le même domaine spirituel, on cherche des fois des choses, mais il n'y a rien de nouveau, parce que souvent, c'est des choses qui ont été dites, des erreurs qui ont été dites, qui reviennent, qui refont surface. Mais alors qu'on parlait des dispensations, je me suis dit, notre frère les a mentionnées, les 7 dispensations, un peu différentes de M. Mais je ne m'assumerai pas avec notre frère. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est un sujet qui est quand même pas facile. Dans le sens qu'il y en a qui en voient 7, il y en a qui en voient 4. Mais une chose est certaine,
c'est que Dieu va parler à des personnes.
J'aime bien la définition de
M. Darby.
Le mot dispensation est généralement désigné un certain état de choses établi par l'autorité de Dieu, donc la parole de Dieu, durant une période donnée. Ça, c'est ce que M. Darby dit sur ça. Fait que là, j'avais le choix entre 7 dispensations, laquelle que je vais parler. Le but d'être ici est donner gloire à Dieu. Deuxièmement, est édifié. Qu'on parte d'ici avec un désir nouveau de servir le Seigneur. Ça fait à peu près 10 ans, au moins, compris pour un réveil. Il y en a ici qui font partie à tous les matins, 7 jours sur 7. Il y a en anglais, en français, c'est le vendredi à 6 heures le matin. On prie pour un réveil au Québec. Vous savez, si on ne prie pas ce qui va arriver, comme disait M. Bernet, il va arriver à rien. Mais même à 77 ans, on veut qu'il arrive quelque chose. Il y a une génération qui nous suit. Est-ce qu'ils voient la réalité de notre foi? Où on est assis et on attend. Non, on veut voir que Dieu agisse. On prie pour un réveil, oui, je prie que ça l'arrive. Je veux le voir pour en rendre témoignage. J'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit il y a bien longtemps. Il a dit ceci, « Si on veut voir la prochaine génération se tenir debout, il faut être sur nos genoux. » C'est tellement simple. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui va être notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui est notre affection première? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est ce que Dieu veut. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça inclut qui? Tu aimeras ton prochain. Ben, c'est le prochain que je vois. Autrement dit, j'aimerais qu'on regarde, on va commencer avec un beau verset. Je viens de me marier, comme vous savez, j'étais un jeune marié. Ça paraît, hein? J'ai envie de sauter au plafond. Heureusement, j'ai quelqu'un pour me retenir. Bon, verset 25. On connaît bien ce verset-là. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ma première responsabilité, votre première responsabilité, marié ou pas marié, c'est d'aimer le Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Ah, j'aime bien chanter. Ma femme aussi, ça la donne bien. Puis, on aime ça chanter des cantiques. Pourquoi? Parce que ça exprime cet amour qu'on a pour le Seigneur. Chanter par routine, ça, c'est triste. Ça paraît. Vous savez, quand il y a un réveil, puis je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de réveil. C'est dans mon cœur de parler du réveil. Alors, on parle de dispensation. Bien, Dieu, dans cette dispensation de grâce, a amené des réveils à bien des endroits. Et on est toujours intéressé de savoir ce que Dieu a fait. Quels sont ceux qui ont été sauvés dans les années 70? Oui. Dieu a fait un réveil dans les années 70. On le sait. Hein? Il y en avait partout. Je me rappelle avoir été à Montréal et des conférences jeunesse. 200, 300 personnes. Hein? Je me rappelle de M. Reynolds, puis d'autres frères, puis ainsi de suite. Dieu a fait un travail au Québec. Puis après ça, il y a eu moindre. Mais il y a eu quand même des années 80 un peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il ne se passe pas grand-chose, en tout cas. Ce que j'entends parler, voulez-vous entendre l'Évangile le dimanche soir à Québec? Veux-tu d'aller dans Beauce? Parce que le dimanche soir, il n'y en a plus de réunion ben, qui annonce l'Évangile. On va dans Beauce. Dans Beauce, à Saint-Georges-le-Beauce, le frère Jean Joly qui est là. Fait qu'on voit aujourd'hui que c'est partout, là, on parle d'une section, mais c'est partout. Ou est-ce que c'est plus comme avant? On fait nos réunions, on garde nos bonnes habitudes du Zoom. Je ne dis pas que c'est mauvais, puisqu'on le fait le matin, mais avec des frères d'un peu partout, des États-Unis puis du Canada. Il y en a un frère même qui est du Paraguay. Puis, mais on garde ses habitudes, on reste chez nous, on écoute puis on entend. Mais vous savez, si on veut qu'il se passe quelque chose, comme je disais tantôt, faut avoir le désir de faire quelque chose. Si vous m'invitez chez vous pour dîner, puis vous sortez votre canne de bine, puis votre bouteille de coke, bien là, je vais dire, ouais, ça n'a pas travaillé trop fort pour préparer un repas. Autrement dit, on veut le meilleur pour ceux qu'on aime. Christ a aimé l'Église. Dieu nous aime d'une manière ineffable. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour lui? Malgré nos limitations, je veux dire, à l'Assemblée où je vais, à New Richmond, on n'est pas des jeunes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans nos limitations? L'apôtre Paul n'a jamais regardé à lui-même, il dit, moi, je ne peux pas, je peux plus rien faire, je suis en prison. Nul n'ignore que c'est pour l'Évangile que je suis dans les liens. L'apôtre Paul n'a jamais regardé ses liens et dit, je ne peux plus rien faire. Mais on a une tendance naturelle de regarder nos limitations, de dire, je ne peux plus faire ça. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ces liens-là? L'apôtre Paul, il rendait témoignage dans les liens. On est atteint par la maladie, par l'âge, par des limitations de toutes sortes. Mais qu'est-ce que l'on peut faire avec ce que l'on a? Le but de la conférence, c'est qu'on part tout enflammé. Enflammé pour notre cher Sauveur et notre cher Seigneur. Lui qui nous a tant aimés. Et combien c'est facile de... Hein? On part, on a tout envie de tout faire, puis deux jours après, on n'a pas envie de rien faire. De nature, c'est ce que nous sommes. C'est un combat. La vie chrétienne, comme disait M. Bernier, comme le saumon, il faut qu'il monte constamment. Il combat contre le courant. Mais le but, c'est de porter. Oui, on sait, c'est de féconder puis avoir beaucoup de petits poissons. Mais pour nous, c'est justement, on veut porter du fruit pour notre chair sauveur. Christ a aimé l'Église. Et c'est ce qu'on veut regarder pendant quelques instants avec vous. Parce que l'Église, c'est précieux pour le Seigneur. Comment je vois l'Assemblée? Est-ce que je la vois précieuse? Oh, encore les mêmes. Ben, je sais ce qu'il va dire, là, lui, il l'a dit la semaine passée. Il l'a dit même un mois passé. C'est toujours la même chose. C'est tellement facile de regarder à l'entourage, mais regardons à celui qui est avec nous. C'est le Seigneur qui est avec nous, qui est au milieu de nous, puis qui veut nous stimuler pour nous encourager à prier. Parce qu'un réveil, c'est quoi? C'est revenir à notre premier amour. C'est tout simple que ça. Un réveil, c'est pas quelque chose. Là, il va tomber du ciel quelque chose, là, puis on va avoir des expériences. Vous allez attendre longtemps. Il y en a qui font ces expériences-là, mais ça ne donne rien. Ils retournent chez eux, puis il n'y a rien qui change. Mais le vrai réveil, c'est quand on est ravivé dans nos cœurs. Puis on a un amour pour le Seigneur qui se voit non seulement aux réunions, mais chez nous. Mais ça, ça se voit partout. Quand il y a un réveil, c'est un réveil parmi la famille. Un réveil parmi l'entourage aussi que l'on est, parce que les gens vont dire, comme notre frère a bien dit, hein, les gens vont voir qu'il y a un changement. Quelqu'un qui est en amour, hein, ça paraît, tout le monde nous dit d'ailleurs, mais c'est ça qu'on aime. Hein. L'amour, ça se partage. Un réveil, c'est ça. Donc, Christ a aimé l'Église. Est-ce que je l'aime? Mais si j'aime le Seigneur, je vais aimer l'Église. C'est ce que Jean nous dit. Comment est-ce que je peux dire que j'aime le Seigneur si j'aime pas mon frère, ma sœur, que je vois? C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus difficiles que d'autres à aimer, dont moi le premier, je suis pas facile à aimer. Mais on est humain. Puis, on ne faut pas prendre cette excuse-là, ben, gars, je suis humain, tu n'as pas le choix. Non, mais l'idée, c'est que oui, on a tous des différences, on a tous des désirs de faire quelque chose. On est là pour travailler ensemble. Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit. Ce matin, en lisant dans le petit livre sur la lumière, le chantier de chaque jour, Daily Light en anglais. Puis là, il parlait justement de la paix, de cette paix et de garder l'unité de la paix. Mais sans amour, impossible de garder la paix. Hein? Dans un foyer qui n'a pas l'amour, il n'y a pas la paix, c'est évident. Ça va ensemble, hein? Fruit de l'esprit, hein? L'amour, la joie, la paix qui vont ensemble. Donc, on va regarder pendant quelques instants à cette pensée de l'Église. On vit dans cette dispensation-là. Comme je disais, quand j'ai pensé au sujet des dispensations, je me suis dit, oui, on peut parler de ce qui était dans le passé, on peut regarder ce qui est à venir, puis toutes les dispensations finissent pareil. Ça finit toujours par un jugement. Toutes les dispensations. Pourquoi? Parce que dans toutes les dispensations, l'homme a failli. Mais Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à travers ces dispensations-là pour montrer à l'homme qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour lui plaire, sans lui. Mais l'idée aussi, c'est que Dieu nous montre ça, que pour être heureux, comme notre frère a bien mentionné, Marc, l'idée du manuel, le manuel de la vie, c'est la parole de Dieu. Combien de gens lisent les manuels d'instruction? Quels sont ceux qui ont des voitures et qui ont toutes lu le manuel d'instruction? Levez la main. Ah, il y en a un au moins. Mais en général, on ne lit pas le manuel d'instruction. Bon, je le sais bien, hein, on prend ce piton, puis on fait ça. Puis... Non, on pense, mais on manque beaucoup des fois parce qu'on ne sait pas. On n'a pas lu les instructions du manuel pour la voiture. De la même manière, l'homme veut mettre de côté la parole de Dieu, donc il est laissé à lui-même. Puis laissé à lui-même, on écoute les nouvelles, puis ça donne une bonne idée. Christ a aimé l'Église. On est appelé un groupe hors de, on sait l'Église, c'est hors de, Ecclesia, qui veut dire on est hors de ce monde. On est différent du monde. Pas parce qu'on veut être différent, mais à cause de celui qu'on aime, on est différent. Quand un homme aime une femme, ça fait une différence. Parce que les autres le voient, ils disent, ben, grand ça, il n'est plus, non. On voit qu'il y a une pensée, il y a un désir vers une personne. Ben, c'est ça, on veut avoir un désir vers le Seigneur et lui seul. Le but des conférences, c'est de nous encourager à avoir les regards sur Jésus. Tournez avec moi dans Jean, chapitre 10 maintenant. Jean, chapitre 10, tout le monde connaît ce beau chapitre. le bon berger. Verset 16. Le Seigneur de dire ceci, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-ci, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Je me rappelle tout le temps, je pense, c'est M. Homer Payne qui disait ça. Pour ceux qui se rappellent de lui, il était aumônier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, je me rappelle, il avait dit ceci. Il dit, ce que j'haïssais le plus, c'est prêcher l'après-midi. Pourquoi? Parce que tous les soldats, ils n'avaient pas envie de l'écouter, ils avaient plus envie de dormir. Mais M. Payne, il disait ceci sur le fait qu'il y a un seul troupeau, un seul berger. L'idée, c'est lui et lui seul. Et on ne veut pas être distrait par autre chose. Ça nous parle de cette unité. L'Église, ça devrait être qu'on est un troupeau. Autrement dit, on n'est pas un là puis un là. Et pourtant, on est si facile à « Ah, oh, ben moi, j'aime pas telle place. Ah, oh, ben j'aime pas une telle. Ah, oh, ben lui, jamais. » Puis on s'en va. Vous savez, si l'Église serait toute ensemble, il n'y aurait rien de plus grand dans tout le monde. Même tous les chrétiens, là, tout ensemble. Dans le sens qu'on se réunirait avec le même désir, la même intensité pour lui. Ça serait quelque chose. Donc, l'idée d'un seul troupeau, un seul berger, le bon berger. Donc, on est réunis, l'Église s'est réunie autour d'une personne. Pas réunie autour d'une organisation ou un groupe d'hommes, mais réunie autour d'une personne merveilleuse. Vous savez, on est les plus privilégiés, je crois, parmi le peuple de Dieu, quand on adore le Seigneur. Parce que là, on se consacre, pas entendre un concert, mais on est là pour lui et lui seul. Quelle est la chose, après 50, je suis sauvé en 74, quelle est la chose la plus difficile que je trouve à faire dans ma vie chrétienne? Adorer. Je trouve ça difficile parce que la chair est toujours en train de combattre, le diable veut me distraire par 10 000 affaires, puis il y a toujours quelque chose qui nous retient un peu. Mais on veut adorer le Seigneur. Puis le diable, on sait que quand on veut adorer, il va tout faire pour nous empêcher d'adorer. Donc, un seul troupeau. Pensez à ça demain matin. On appartient au troupeau du Seigneur. C'est en lui qu'on est. Puis on veut le suivre, lui et lui seul. On veut entendre sa voix. Pourquoi vous êtes venu ici après-midi? Pourquoi moi je suis ici? Je veux entendre la voix du Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, je peux l'entendre chez nous, c'est vrai. Il y en a qui font ça surtout le dimanche matin. Là, ils veulent entendre la voix du Seigneur chez eux, ils ne veulent pas aller aux réunions. C'est triste dans ce temps-là. Mais on veut entendre la voix du Seigneur. Mais quand on est réunis ensemble, cette unité-là, ça plaît au Seigneur, ça glorifie le Seigneur, puis le Seigneur se manifeste encore plus dans cette situation-là aussi. Donc, un seul troupeau. On veut entendre sa voix. Maintenant, tourner, on est appelé à être un troupeau. Une autre chose qu'on est appelé, à 1 Corinthiens, si vous voulez tourner avec moi, 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Je ne vous apprends rien de nouveau, mais je vous apprends une chose, c'est qu'il faut aimer le Seigneur. Pour nous qui sommes mariés, qui avons des épouses, quand est-ce que vous avez dit à votre épouse, je t'aime? J'espère que vous le dites souvent. Est-ce qu'elle dit, ok, je suis assez tanné d'entendre ça, là, moi, là, arrête-moi ça. Hein? Ça me dira ça, je tomberai sur le plancher. Mais on aime ça, entendre ça, puis je l'aime l'entendre, moi aussi. Est-ce que ça ne plaira pas au Seigneur de l'entendre? Quand est-ce que j'ai dit au Seigneur, Jésus, je t'aime? Tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Ben, je t'aime, Seigneur. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Rappelons-nous de cela. Adorer, c'est exprimer notre amour. Quand on arrive le dimanche matin, on exprime notre amour. Ouf, une bonne douche d'eau froide des fois. On dirait que tout le monde y a la grippe. Personne ne parle, on attend. Non, on est là pour adorer le Seigneur. Notre cœur devrait être débordant, hein, comme la plume d'un habile écrivain. Mon cœur bouillonne là, dans un psaume. Alors, ça devrait être ce qui nous caractérise. Exprimer notre amour. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous dit ceci. Car nous sommes, tout le monde est inclus. Chacun de nous est inclus dans ce qui est dit ici. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège, hein? C'est qui ton employeur? C'est Dieu. Hey, quelque chose de dire ça à quelqu'un, il dit, OK, ouais, lui, il a eu un coup de soleil. Hein? Mais on est ouvriers avec Dieu. Imaginez, celui qui a créé toute chose veut bien se servir de nous. Donc, nous sommes ouvriers avec lui, c'est sûr qu'on pourrait dire, ouais, mais oui, il prêche l'Évangile. Mais on travaille tous ensemble, que ce soit dans le secret, que ce soit publiquement, on travaille tous ensemble pour la gloire de Dieu. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. À cet ainsi, on regarde les champs. À quoi sert un champ? Ben, les gens qui ont des champs, en général, ils s'attendent qu'ils vont semer puis ça va porter du fruit. Dieu s'attend, comme son Église, on est le champ de Dieu, ce qu'on porte du fruit. Ça soit visible. Un champ qui porte rien, ben, il n'y a rien qui a été fait. Mais Dieu veut, dans nos vies, hein, qu'on ait le fruit de l'Esprit, Dieu veut qu'on porte du fruit pour lui. On est un champ de Dieu. Donc, l'idée, on est un troupeau, on est un champ, mais pas n'importe quel champ, le champ de Dieu. Ça veut dire que le champ ne nous appartient pas. Hein? Quand on se réunit le dimanche matin, je me réunis à l'Assemblée, mais c'est son Assemblée, c'est son champ, c'est lui qui œuvre au milieu de nous. Ça nous amène à vivre encore plus dans la dépendance du Seigneur. Vous savez, quand on pense aux dispensations, quel privilège de vivre dans cette dispensation de la grâce de Dieu. On devrait être tellement reconnaissant. Notre frère Daniel Dugas, que plusieurs connaissent ici, il dit, imaginez si on vivait sous la loi. Ben là, chacun de nous aura amené un agneau, puis l'autre aura amené peut-être plus riche. Hein? Hein? Imaginez, on arrive tous avec nos animaux pour les offrir en sacrifice. Hein? Mais ça demandait du temps, puis c'était pas évident. Mais c'était ça que Dieu demandait. On n'a pas besoin d'amener aucun sacrifice d'animaux. On a notre l'agneau de Dieu, il y a le champ de Dieu, puis il y a l'agneau de Dieu, tout devant ça. Alors, on a ce privilège-là d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout ce qu'on a besoin d'apporter, c'est sa parole dans notre cœur, dans nos mains, bien entendu, et on peut chanter ces beaux cantiques à la gloire de Dieu. Donc, on est le champ de Dieu parce que Dieu veut qu'on porte du fruit. Dieu travaille au milieu de nous. C'est tellement agréable, je viens d'entendre deux nouvelles. Une bonne nouvelle, Anne. Revenez au Seigneur. Pour ceux qui ont connu Anne, la sœur de Méline, notre sœur Sylvie Royer nous parlait de elle hier. Puis il y a Linda Boissonneau aussi que j'ai entendu parler. Ça réjouit mon cœur de voir que des personnes reviennent au Seigneur. Est-ce qu'on prie pour ça? Ou on les a oubliés? À tous les samedis, quand on prie, le but c'est de prier pour les prodigues. Ben, c'est un réveil ça aussi, parce que quand on voit les gens qui reviennent au Seigneur, or continuons à prier. Pourquoi? Parce qu'on est un troupeau, puis on est le champ de Dieu. Maintenant, on a un champ, mais pas juste appelé un champ de Dieu, regardez ce qui est marqué. On est, suite le verset, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Ça nous parle de quoi? De construire. On est ici pour construire. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Oui, est-ce que je suis une entrave à ceux qui travaillent pour le Seigneur ou je suis là pour les aider, pour les encourager? Vous savez, dans la vie où on aide, où on fait l'inverse, on est une entrave. M. Bernier disait souvent des fois, je me rappelle, il disait, il y en a qui sont comme des boulets. Hein? Des expressions qu'il prenait. On ne veut pas être un boulet. On veut être de ceux qui travaillent pour le Seigneur. On est l'édifice de Dieu. Puis Dieu nous donne le grand privilège d'être ouvrier avec lui, dans son champ, puis dans l'édification. Est-ce qu'on recherche l'édification? Vous savez, c'est quoi l'édification? C'est une carte à donner à quelqu'un. Que vous dites, que vous pensez à cette personne-là. C'est d'envoyer un petit texto. C'est un petit geste qui montre que vous avez à cœur le bien spirituel de la personne. On aime ça être encouragé. Mais est-ce qu'on encourage? Vous savez, un bon moyen de s'encourager, c'est d'encourager les autres. Quand nos yeux sont pas sur nous, mais sur le besoin de nos frères et de nos sœurs. L'Église, un troupeau, un champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 16, toujours chapitre 3, il nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ne savez-vous pas? Pourquoi qu'il dit « ne savez-vous pas » puis plusieurs fois il va le dire « ne savez-vous pas » Bien, c'est qu'on le sait, mais on ne le vit pas. On aime bien dire, hein, le Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On sait ça, mais est-ce qu'on le vit ça? Des fois, il n'y a rien de nouveau, comme je disais. Des fois, on dit, mais est-ce que c'est la réalité? Je veux dire, si vous entrez dans la présence d'un personnage, allez-vous commencer, hey, tu sais qu'il faisait bien mauvais, puis là, ben là, je ne sais pas ce qui va arriver. Puis, non, quand on rentre devant une personne importante, on ne dit pas un mot. Puis on attend que la personne parle. Mais c'est la même chose quand on va là, quand on se réunit. Ben, on n'est pas là pour parler de ce que j'ai fait, puis de ce qui... Non, on est là pour entendre sa voix, comme on a dit tantôt. Alors, on est le temple de Dieu, qui nous parle d'adoration. On adore le Seigneur. Imaginez, nous, qui étions des pécheurs, qui étaient loin de lui, puis là, on est appelé à être des adorateurs. C'est ce que Dieu veut. On est le temple de Dieu. On n'a pas besoin d'aller nulle part. Là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Sa présence, la plus grande bénédiction humaine sur cette terre, c'est bien la présence de Dieu. Et on vit dans cette dispensation de la grâce qui nous donne cet accès. Avant ça, il y avait des limitations sur les différentes dispensations. Mais là, il n'y a pas. Il n'y a aucune limitation. On peut rentrer à cause du Seigneur Jésus dans sa présence même. Verset bien connu, Éphésiens, chapitre 1. Beaucoup ont parlé de Éphésiens, notre frère Gérald en a parlé beaucoup. Et c'est tellement merveilleux parce que là, il parle justement de les Juifs et les gentils. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme disait Salomon. L'importance des dispensations, c'est très pratique de faire la différence des choses. Aujourd'hui, on mêle tout. Ce qui appartenait à Israël maintenant, c'est pour l'Église, puis des places, pas de différence entre l'universalisme, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas. On est confusion. D'ailleurs, c'est, comme on dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre, puis le diable c'est un Dieu de confusion. Et si on regarde ce qui se passe, il fait un bon travail, malheureusement. Mais on voit qu'il faut faire la différence des choses. Et on est appelé à être le corps de Christ. Oui, juif et non-juif. C'est ce qu'il dit au chapitre 1. Et on lit au verset 22, qui nous dit ceci. « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » On est son corps. Eh bien, un corps qui ne parle pas, c'est un corps mort. Mais quand on a envie de parler, hein? Et l'idée qu'on peut retenir de ça, qu'on est son corps, Dieu nous fait entrer dans cette partie de notre vie. On fait partie du corps de Christ, pourquoi? Pour parler de lui. C'est ce que notre frère aussi, Marc, a parlé. L'idée qu'on rend témoignage du Seigneur Jésus. On est un homme nouveau. Chapitre 2, on peut regarder Éphésiens 2, 22. Il nous dit ceci. « Et vous êtes en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Encore là, l'idée d'habitation. Car ça nous parle de quoi? Ben, si vous rentrez dans une maison et il n'y a pas personne, il n'y a pas rien qui est intéressant. Mais quand on rentre dans une maison, puis là, il y a de la vie, des personnes qui s'aiment, des personnes qui ont à cœur les choses de Dieu, ça se sent et c'est agréable. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur est honoré dans cette maison. L'idée d'habitation nous parle de présence, sa présence. Et comme on a vu, l'épouse de Christ, on est appelé l'épouse de Christ, ça nous parle quoi? De nos affections. Notre affection est envers le... Affectionnez-vous aux choses d'en haut, C'est là qu'on veut mettre nos affections. On est appelé, et je termine avec ça, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est là qu'on va trouver la vérité. Imaginez, vous voulez avoir un renseignement, exemple.
Vous voulez avoir un renseignement, exemple.
Ou un gouvernement fédéral ou provincial. Là, vous allez au bureau.
Là, vous allez au bureau.
C'est pas la bonne journée pour venir, vous en allez chez vous. Ben, quand quelqu'un rentre dans une assemblée, puis ça chicane, puis ça, comme on dit, il n'y a pas la paix, ben, les gens disent, ben, si c'est ça, je ne suis pas tellement intéressé, mais on va chez vous. Est-ce que les gens voient l'unité du Seigneur Jésus qui veut au milieu de nous? On vit... Dans cette période de la grâce, est-ce que c'est visible la grâce de Dieu? Et c'est là qu'on a besoin d'un réveil. Parce qu'on a oublié la grâce qui nous est faite. Donc, si j'ai oublié la grâce qui m'a été faite, je n'aurai pas beaucoup de grâce envers mes frères et mes sœurs. Puis ça va se démontrer par un manque d'amour, un manque d'unité. Que le Seigneur, par sa grâce, réveille nos cœurs. Et qu'on parte d'ici en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vis dans la dispensation de la grâce, bien que je la manifeste pour la gloire de ton nom. Amen.